Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sous les projecteurs, notre émission de critique théâtrale sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Je suis Anna, votre présentatrice, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de première générale 7 du lycée Albert Camus à Bois-Colombes. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons vous parler de la pièce de théâtre « Le dîner chez les Français » de Valéry Giscard d'Estaing, mis en scène par Léo Cohen-Papermann. Cette pièce raconte un dîner qui dure 7 ans, ce qui correspond au mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Elle parle de 7 personnages, une famille normande dont deux grands-parents, leur fille, son mari et le petit-fils, ainsi que le président et sa femme. Au cours du dîner, la mise en scène permet de comprendre les nouveautés mises en place durant le mandat du président. Pour débuter aujourd'hui, nous écouterons une interview de la journaliste Romy de deux spectatrices, Anaïs et Manon, sur la mise en scène de la pièce. Je laisse maintenant la parole à notre journaliste Romy.
Anaïs et Manon, pourquoi pensez-vous que les metteurs en scène ont choisi un dîner pour représenter le mandat de Giscard d'Estaing ?
Pendant son mandat, Valéry Giscard d'Estaing et sa femme sont allés manger chez plusieurs familles françaises pour pouvoir parler avec eux. Cette famille représente la population rurale française. Ce repas a été un lieu de partage entre le président et cette famille, permettant aux paysans de discuter avec le président des problèmes auxquels ils font face.
Ce dîner permet aussi de voir toutes les avancées qui ont été faites pendant son mandat. Les différentes phases où il passe d'un président aimé à un président beaucoup critiqué à la fin de son mandat, mais aussi de voir les différents points de vue de personnes extérieures, des parents paysans qui viennent d'une classe populaire et un jeune couple qui vont avoir des avis différents sur ses avancées.
En parlant d'avancées, quels éléments introduits dans la mise en scène montrent le temps qui passe au cours du dîner ?
Le personnage de l'enfant José, qui représente la génération future, est un personnage clé pour la compréhension de la pièce. Au fur et à mesure de la pièce, on voit l'enfant grandir, passant de 1 an jusqu'à 7 ans à la fin de la pièce, notamment grâce à ses changements de vêtements. José permet également aux spectateurs de prendre connaissance des différents événements survenus durant le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, ainsi que les réformes qui sont mises en place.
Ah bon, et comment fait-il ça ?
Au début de chaque acte, la pièce s'arrête, les projecteurs se tournent vers José et ce dernier prend la parole. Il annonce l'acte, son âge et fait également un point sur la situation politique de la France, ce qui permet de rythmer la pièce. Le temps qui passe est renforcé par les 7 plats qui représentent chacun une année, allant de l'apéro jusqu'au dessert.
Et en parlant du personnage de l'enfant, est-ce que les 3 générations de la famille représentent-elles différentes perspectives sociales et politiques de l'époque ?
Oui, on remarque que cette famille est divisée par différentes perspectives sociales et politiques. On peut dire que les parents ont une image plus conservatrice de la société de l'époque, alors que le jeune couple représente la modernité. La jeune femme est pour des avancées au sujet de la place de la femme. Elle veut plus de liberté, comme voyager ou tout simplement travailler. On peut aussi dire qu'elle représente les nouveautés qui ont été faites pour les femmes à cette époque, le droit à l'avortement, mais aussi le divorce qui devient plus accessible. Mais ce couple représente aussi les inégalités entre l'homme et la femme. Par exemple, on peut voir que l'homme coupe souvent la parole à sa femme. Et lorsque le bébé pleure, elle est la seule qui s'en occupe.
Et toutes ces nouveautés représentées dans la pièce sont-elles fidèles à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing ou exagèrent-elles certains aspects pour faire rire ?
La pièce reste fidèle aux événements qui se sont déroulés pendant cette période, car on peut voir les nombreuses avancées telles que l'IVG, le divorce ou même les nouvelles technologies telles que le TGV, les satellites présents dans l'espace, le téléphone fixe dans les foyers, le nucléaire, etc. Mais elle représente aussi des aspects négatifs de la société, tels que les coupures d'électricité à cause de la consommation qui est supérieure à la production et le choc pétrolier.
Donc si je comprends bien, vous recommandez cette pièce de théâtre. Elle est fidèle aux faits historiques, elle amplifie certains aspects pour apporter une touche d'humour, ce qui rend le propos plus accessible et divertissant. Ce mélange d'authenticité et d'exagération souligne les réussites et les défis du mandat, tout en engageant le spectateur dans une réflexion sur la société française de l'époque. Donc merci Romy, Anaïs et Manon. On retrouve maintenant Clara, Julia et Anna pour le contexte historique de la pièce.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous écoutez toujours Sous les projecteurs sur Radio Campus Paris. Nous allons maintenant explorer ensemble le thème principal de la pièce. Les défis d'une société française tiraillée entre tradition et modernité, notamment à travers des sujets tels que l'émancipation des femmes, le chômage et ses impacts politiques. Avec moi, deux invités pour enrichir nos réflexions. Tout d'abord, Julia Ouex, une élève de première qui a assisté à la pièce et nous partagera son ressenti. Bonjour Julia.
Merci pour l'invitation.
Et à ses côtés, Anna Rivoile, spécialiste de l'histoire politique et sociale du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour Anna.
Ravie d'être ici pour parler d'un sujet si riche.
Entrons directement dans le vif du sujet. Pour commencer, Anna, pourriez-vous nous rappeler le contexte de cette pièce et les grandes lignes du mandat de Giscard ?
Bien sûr. Valéry Giscard d'Estaing a été élu en 1974, incarnant une rupture avec les traditions gaullistes. Il se positionne comme le président du progrès, symbolisé par des réformes marquantes, comme la légalisation de l'IVG et l'abaissement de la majorité à 18 ans. Cependant, cette période est aussi marquée par des crises. Le choc pétrolier de 1973 entraîne une hausse du chômage et une précarité croissante. Ce contexte économique difficile nourrit une montée de l'extrême droite qui joue sur les peurs et les frustrations des Français face à un monde en mutation. La pièce capte parfaitement ces tensions. Elle montre une société hésitant entre la préservation de valeurs traditionnelles et l'adoption de nouvelles libertés, notamment pour les femmes.
Merci Anna. Julia, en tant que spectatrice, qu'avez-vous pensé de cette reconstitution des années 70 et les problématiques abordées ?
J'ai trouvé la mise en scène intéressante. Pour moi, les thèmes qui ont été abordés comme le statut des femmes dans la société ou encore le chômage m'ont captivée dans leur mise en scène emplie d'humour. Le fait que Giscard dîne avec des Français ordinaires reflète bien les décalages de l'époque. Certains passages m'ont paru difficiles à saisir, comme les allusions politiques à la montée du Front National. En tant que personne née dans les années 2000, j'aurais aimé plus d'explications sur certains passages de la pièce.
Justement, Anna, pourriez-vous éclairer ce point, s'il vous plaît ?
Pas de problème. À cette époque, le chômage atteint des niveaux jamais vus auparavant. Cette insécurité économique touche particulièrement les classes populaires qui ressentent un déclassement social. L'extrême droite, encore marginale dans les années 60, en profite pour se renforcer en pointant l'immigration comme problème principal. Ce que la pièce montre bien, c'est que Giscard, malgré ses efforts pour moderniser la France, n'a pas su répondre à ses angoisses. Cette dualité entre espoir et frustration traverse tout le spectacle et fait écho à certains enjeux actuels, comme les débats sur l'emploi ou la montée de mouvements populistes.
Un parallèle frappant en effet. Julia, en quoi cette pièce vous a-t-elle fait réfléchir sur notre époque ?
Elle m'a fait comprendre que certaines problématiques restent encore aujourd'hui actuelles, même si elles prennent des formes différentes. Par exemple, les débats autour de l'égalité des genres ou des réformes sociales dans la pièce me rappellent des discussions d'aujourd'hui. Cela me donne envie de mieux comprendre l'impact de nos décisions sur le futur.
Un bel exemple de l'impact du théâtre sur notre réflexion collective. Merci à vous deux pour ces éclairages passionnants. Avant de conclure, Anna, avez-vous un dernier mot à ajouter ?
Simplement qu'un dîner chez les Français est un miroir non seulement des années 70, mais aussi de notre propre époque. C'est une invitation à réfléchir à ce que nous voulons pour l'avenir.
Merci Anna. Julia, avez-vous un dernier mot pour les auditeurs ?
Allez voir cette pièce, même si vous n'êtes pas fan d'histoire. J'ai beaucoup apprécié la pièce grâce à ses mises en scène énergiques et pleines d'humour. Je suis sûre que vous aussi, auditeurs, apprécierez cette pièce.
Un conseil que je partage. Merci à tous et je passe l'antenne à Lucie sur le bilan du mandat de Valéry Giscard d'Estaing.
Merci Clara, bonjour à toutes et à tous. Lucie à l'antenne, vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Aujourd'hui, je vous propose un débat sur le mandat de Valéry Giscard d'Estaing à travers la pièce. Tout au long de la pièce, on voit évoluer la relation entre la famille et le président, comme les Français, durant ces 7 années de mandat. Tout ça avec un trait d'humour hilarant et une mise en scène ingénieuse et efficace. Nous accueillons donc deux intervenantes ayant vu la pièce, une spécialiste politique. Bonjour Samia.
Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous.
Et une journaliste. Bonjour Yasmine.
Bonjour Lucie et bonjour chère audience.
Toutes les deux, vous avez relevé des points négatifs et positifs de ce mandat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Donc, Valéry Giscard d'Estaing a voulu, durant son mandat, faire avancer la France vers une modernisation sociale et culturelle, notamment à travers de différents projets, comme par exemple en abaissant la majorité à 18 ans. Ce choix nous permet de voir que Valéry Giscard d'Estaing veut faire de la société française une société plus dynamique et active en abaissant la majorité. Il fait aussi voter la loi sur l'avortement, qui témoigne d'une avancée majeure pour les femmes. En faisant voter cette loi, il montre son soutien envers les femmes, ce qui illustre l'effort du président à faire de la France une société plus égalitaire. Par exemple, avec la scène où Marie-France se déchaîne, s'énerve lorsqu'on lui dit que faire un deuxième enfant lui ferait un bien fou, ce qui est normal selon sa mère et la femme du président qui, elle, en a quatre. Marie-France, elle, est déjà au bout du rouleau avec son premier enfant, José.
Vous avez raison, José, dans la pièce, est un enfant très dynamique. Hein. Et vous, Samia, qu'en pensez-vous ?
Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. José est un enfant très dynamique. Et une scène qui m'a interpellée, c'est la scène où le président lui demande qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. José répond « chômeur ». Parce que oui, sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, en 1981, la France comptait plus de 1 million de chômeurs. C'est énorme. Mais encore heureux que la situation s'est améliorée avec le temps.
Certes, il y a du chômage, mais également des grandes nouveautés apparaissent, hein, comme le TGV.
Oui, exactement. Valéry Giscard d'Estaing a voulu apporter une amélioration au transport, mais aussi au divertissement français avec l'amélioration de la télévision. En ce qui concerne la télévision, ce moyen de divertissement est pris très au sérieux par les Français. Notamment dans la pièce, on peut voir les différents personnages, surtout les parents, Monsieur et Madame Deschamps-Corigny, qui font des allers-retours dans le salon vers la télé, au début, au milieu et à la fin de la pièce. Sous son mandat, la télévision a connu de grands changements. Il a encouragé la création de programmes télévisés plus diversifiés. Par exemple, avec la création d'Antenne 2, qui est aujourd'hui connue sous le nom de France 2, et de FR3, connue sous le nom de France 3. Ces chaînes ont pour but de donner plus de choix au public. Au niveau des transports, parlons du train à grande vitesse, l'un des projets majeurs initiés sous son mandat. En 1974, il donne son feu vert pour la construction de la première ligne du TGV Paris-Lyon. Le TGV symbolisait l'innovation technologique française et répondait à des besoins de mobilité moderne et écologique. Nous avons aussi un petit fun fact. Donc le président, le premier TGV a été inauguré en 1981, juste après son départ de la présidence. Ce projet visionnaire reste l'un des grands héritages de son mandat.
C'est plutôt ironique, effectivement. Donc certes, toutes ces nouveautés, mais également la France connaît un choc pétrolier. Parlez-nous en plus, Samia.
Oui, avec grand plaisir. Donc, la France a connu un choc pétrolier et cette situation a été mise en scène par une coupure d'électricité durant le dîner. Cet événement m'a étonnée puisque j'ai cru que nous allons passer le reste de la pièce éclairée par des bougies. Cela met donc en évidence le choc pétrolier qu'il y a eu en France en 1975 puisque oui, durant cette période-là, les Français consomment plus que la production d'énergie en France. Cela pose problème puisqu'il y a de nombreuses coupures d'électricité et de chauffage au sein du pays. En conséquence, le président annonce donc qu'il souhaite utiliser davantage l'énergie nucléaire, encore nouvelle à cette époque-là.
La pièce nous montre aussi une drôle de nouveauté, la nouvelle cuisine.
Oui, exactement. Un mouvement spécial et hors du commun est aussi né sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Le mouvement de la nouvelle cuisine. Ce mouvement né en 1973 est devenu une émission qui est une alternative pour manger plus léger, notamment pour retirer la sauce souvent trop lourde. Cette émission est apparue dans la scène où Monsieur Deschamps-Corigny parle de crème pour accompagner le plat. Une scène d'ailleurs hilarante, répétant sans cesse de vouloir garder sa crème. Aujourd'hui, la sauce a repris sa place dans nos plats et est devenue un mets important.
Il y a aussi une scène qui nous a marqué, hein, je trouve, celle où Marie-France, la fille du vieux couple normand, se déchaîne. Elle monte sur la table et chante « Ça plane pour moi » de Plastique Bertrand, tout en dansant de manière erratique. Samia, vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui, bien sûr. Donc Marie-France est un personnage qui m'a énormément touchée, puisque c'est une femme qui se bat pour ses droits, puisque oui, durant cette scène où elle danse, elle monte sur la table et elle danse, elle revendique son émancipation, puisque avant d'être une mère, c'est une femme qui a ses droits et qui se bat pour ces droits-là.
Il y a notamment une autre scène qui m'a interpellée durant la pièce où un repas est servi au cours du dîner. Donc Madame Deschamps-Corigny a cuisiné un bar, un type de poisson qui a malheureusement rétréci à la cuisson. Hélas, les personnages sont obligés de partager le repas. Le président décide donc de se lever pour couper le poisson en 6 parts, mais il a oublié de se compter. Le président, donc tous les membres de la famille sont obligés de donner une petite part de son poisson au président. Et les personnages ont une réaction assez colérique, notamment pour Michel le père et Marcel le beau-fils. La réaction colérique de ces personnages montre très bien la réaction qu'ont eu les Français durant la hausse de ces impôts qui a été établie par l'ancien ministre de l'économie Raymond Barre. Donc la réaction des personnages est très colérique et ça démontre la réaction des Français lors de la mise en place de cette réforme-là à cette époque.
Merci à vous deux pour ce débat. Maintenant parlons peu, parlons musique avec Adam, Ilan et Quentin.
Merci beaucoup Samia, Yasmine et Lucie pour ce débat sur le mandat de Giscard d'Estaing. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adam et je suis ravi de passer ce moment avec vous. Installez-vous confortablement, car dans un instant, on va commencer. Nous allons maintenant aborder deux chansons parmi les 7 présentes dans la pièce. Effectivement, une partie du côté comique se passe à travers la musique. On y retrouve des chansons connues qui ont pu renverser le genre de la musique, comme « Attention mesdames et messieurs » ou encore « La Java de Broadway ». Je suis actuellement avec Ilan et Quentin qui pourront bien mieux vous parler de ces chansons et de leur importance à travers la pièce.
Bonjour Adam.
Nous allons aborder la chanson « Les Rois Mages » et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup Adam. On va effectivement parler de la musique « Les Rois Mages » qui est une musique qui a désormais plus de 50 ans car elle est sortie en 1971 et elle a été écrite par la chanteuse Sheila. Un extrait tout de suite. Voilà, donc c'est une musique plutôt légère qui évoque le voyage biblique des rois mages, rythmé par l'étoile du berger qu'on suit des yeux toute la musique. La musique évoque aussi des thèmes comme l'espoir, l'amour ou la défense d'un idéal, à savoir la rédemption avec la naissance de Jésus.
Je crois que c'est le personnage de la grand-mère qui interprète cette chanson, non ?
Tout à fait.
Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce personnage ?
Ouais, bien sûr. Dans la pièce de théâtre, la musique Les Rois Mages est chantée par la grand-mère de la famille, à savoir Germaine, qui a un mode de vie très ancré dans la tradition typique catholique française. C'est aussi un personnage qui a connu la période de guerre 39-45 et qui donc a un mode de vie très classique et peu atypique. La musique intervient au tout début de la pièce de théâtre, qui signifie aussi le début du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, où il a évoqué des mesures très intéressantes et qui ont donné beaucoup d'espoir pour la France.
Merci beaucoup Ilan pour cette superbe explication. On va désormais passer à une musique complètement différente. Il s'agit de « Ça plane pour moi » de Plastic Bertrand. Et c'est désormais à vous Quentin.
Donc cette musique de Plastic Bertrand est sortie dans les années 70. Donc elle fait partie des premières du mouvement punk.
Cette chanson est une rupture dans le monde de la musique, mais en quoi elle casse les codes ?
Oui, exactement. Donc on voit qu'il y a une rupture avec les traditions et les normes de la musique des années 50 et 60. Donc en effet, le tempo est rapide, les paroles sont absurdes, sans logique et parfois ne veulent rien dire du tout, contrairement aux chansons de l'époque, qui avaient le plus souvent une douce mélodie, comme par exemple dans la musique des Beatles, et dans lesquelles les paroles étaient recherchées et avaient un véritable sens. Donc Plastic Bertrand cherche à se différencier des autres auteurs et à se rebeller contre les traditions de la musique de l'époque. L'expression « ça plane » connote une déconnexion et fait également référence à l'alcool et à la drogue. Donc cette musique a été utilisée dans la série La Casa del Papel, série qui date de 2017, dans laquelle les personnages principaux se révoltent contre les injustices du gouvernement en braquant des banques pour redistribuer l'argent. Donc ça montre que cette chanson a pour objectif de s'échapper et briser les codes dans une forme de révolte dans les traditions musicales des années 1950 et 1960. La répétition « moi, 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 moi » dans le refrain peut s'apparenter à une forme d'individualisme.
Mais toutes ces ruptures qu'elle a avec la musique traditionnelle, elles ont un lien avec la pièce ?
Oui, exactement. Donc Cette musique représente bien Marie-France. Donc, c'est la jeune femme qui travaille en tant que secrétaire et qui doit également s'occuper de son enfant. Donc, elle souhaite partir et voyager et se détacher de son rôle de mère en brisant les codes. Donc, sa plainte pour moi incarne bien le caractère émotionnellement instable de Marie-France, avec un rythme rapide et ses paroles sans aucun sens. Donc, je vous fais passer un extrait de Sa plainte pour moi maintenant.
Comme un alien dans son igloo, sa plainte pour moi, sa plainte pour moi, sa plainte pour moi, moi, sa plainte pour moi.
Merci beaucoup, Quentin, et je vous remercie encore tous les deux pour votre venue. Et nous allons maintenant laisser l'antenne à Lisa et sa chronique sur la représentation des femmes à travers la pièce. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous remercie pour votre écoute.
Qu'elle me dit en passant, I am the king of the divan. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera.
Merci Adam, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, nous allons accueillir trois journalistes, Éline, Louane et Esther, pour nous parler de la place qu'occupent les femmes dans la pièce. Nous allons commencer par vous, Éline, qui vous êtes intéressée à Germaine.
Alors, Germaine, c'est la femme de Marcel. Elle est la représentation de la vieille France, la France d'avant-guerre, traditionnelle, mais aussi des femmes conservatrices sous le mandat de Valérie Giscard d'Estaing. Germaine est une femme classique qui est contre les idées de sa fille et donc contre l'évolution de la société et des femmes.
Et qu'est-ce que pense Germaine ?
Alors, pour elle, une femme se doit de faire certaines choses et ne peut pas faire d'impasse dessus. Elle valorise fortement le rôle de la femme comme mère et épouse. Pour elle, la famille est perçue comme un pilier fondamental de la société et les femmes sont vues avant tout comme des gardiennes de l'ordre domestique. Elles sont donc avant tout des mères et des épouses et non des femmes à part entière. Elle considère que l'émancipation des femmes risque de déstabiliser cet équilibre qu'elle connaît si bien. Germaine n'a connu toute sa vie que cette image de la famille et ne comprend pas, ou du moins ne veut pas comprendre, que le rôle de la femme au sein de la famille peut être différent. Pour elle qui a grandi et vécu dans une société très conservatrice, traditionnelle vis-à-vis des femmes, l'idée que leur place au sein de cette même société soit différente l'effraie.
Et donc a-t-elle des attentes pour sa fille ?
Oui, elle souhaite que sa fille est la famille traditionnelle parfaite, conforme à l'idée qu'elle en a et qui lui a été inculquée. C'est donc sans surprise que, dans la pièce, Germaine pousse sa fille Marie-France, qui exprime son mal-être, à avoir un deuxième enfant, comme si c'était le moyen d'aller mieux. Elle voit la dépénalisation de l'avortement comme une menace pour la famille traditionnelle et contre les valeurs chrétiennes qui insistent sur l'importance de la vie et de la maternité. Les femmes conservatrices ont également critiqué les réformes sur le divorce et l'égalité des droits entre hommes et femmes dans le cadre du travail.
Merci beaucoup, Éline. Vous nous avez donc parlé de Germaine et évoqué sa fille Marie-France. Louane, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Marie-France, justement ?
Oui, bien sûr. Donc, Marie-France est la fille du couple Marcel et Germaine. et l'épouse de Michel. Elle est également la mère du petit José, qui est en quelque sorte le narrateur de la pièce. Dans cette pièce, cette femme représente la Nouvelle France, les jeunes et les femmes militantes qui veulent du changement. Marie-France souhaite davantage de liberté et a plusieurs idées pour les femmes. Elle parle d'avortement, de divorce et une répartition égale du temps de passer au travail entre elle et son mari. Elle veut que son mari s'occupe plus de leur enfant pour pouvoir travailler davantage. Elle cherche désormais à s'imposer dans son couple en osant dire non et en partageant ses propres envies. On peut le voir notamment lorsqu'elle et son mari se disputent à propos du lieu de leurs prochaines vacances. Cette scène fait contraste avec celle du début où Marie-France se faisait constamment couper par son mari dès qu'elle parlait. Au fur et à mesure que les années s'écoulent dans la pièce, on remarque que Marie-France s'exprime et ose de plus en plus, n'hésite pas à hausser le ton et même crier pour se faire entendre. Ce changement d'attitude va de pair avec les réformes qui prennent place en parallèle dans la société.
Peut-on établir un lien avec le féminisme ?
Oui, dans la pièce, Marie-France représente le mouvement féministe. Les féministes révolutionnaires remettent en question les fondements même du patriarcat. Elles se battent contre la domination masculine dans tous les aspects de la vie, travail, sexualité et vie familiale. On peut donc observer un vrai détachement entre les idées de sa mère plutôt traditionnelle et conservatrice et les siennes qui sont celles d'une militante qui a besoin de changement et qui ne veut plus se faire marcher dessus.
Merci beaucoup Louane. Pour finir, nous allons écouter Esther qui va présenter la position d'Anémone qui est la femme de Valéry Giscard d'Estaing.
Cette pièce se déroule durant le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, donc au moment de l'arrivée d'un des droits les plus importants pour les femmes, le droit à l'avortement. Mais dans la pièce, Valéry Giscard d'Estaing ne représente pas vraiment l'évolution des droits des femmes. Il a profité de la présence de Simone Veil et de Gisèle Halimi pour faire passer cette loi sous son mandat. À cette époque, les hommes décidaient pour les femmes, mais ne pouvaient pas représenter la lutte de ces femmes pour disposer de leur corps librement.
Et qui représente cette évolution dans la pièce ?
Dans la pièce, sa femme, Anémone, représente les droits des femmes, notamment dans la scène où elles ne sont que entre femmes. Quand Valéry Giscard d'Estaing et Anémone arrivent, personne ne sait comment il faut appeler la femme du président. Ils vont alors l'appeler Madame la Présidente.
Et qu'est-ce que ça montre ?
Cela nous montre que les femmes des présidents n'ont pas leur place et qu'elles sont juste considérées comme la femme du président, nous montrant alors une sorte de soumission et d'invisibilité. Anémone est très gênée et ne se sent pas à sa place. Lors de la scène entre femmes, on voit bien qu'elle a des idées, qu'elle veut participer au mandat de son mari, mais qu'elle ne peut pas parce qu'elle n'est pas présidente. Elle propose que les mères au foyer puissent être payées afin de s'occuper exclusivement de leurs enfants. Sa position concernant les femmes est assez partagée lorsqu'après cette proposition, Marie-France demande si les hommes peuvent en bénéficier. Elle ne sait pas se positionner et rejoint alors la mère de Marie-France, Germaine, qui n'est pas d'accord avec cette proposition. La position d'Anémone est partagée, comme coincée entre deux générations. Elle est partagée entre la génération de Germaine, plutôt conservatrice, et celle de Marie-France, plutôt moderne.
Merci beaucoup Esther, merci à tous pour votre écoute et merci à nos trois journalistes, Éline, Esther et Louane. Je laisse maintenant la parole à Maëlys qui va nous parler des différentes opinions sur l'évolution des droits des femmes.
Bonjour, je m'appelle Maëlys, je suis avec Samuel, Daniel et Sophia. Et donc on vous a parlé avant des différents rôles féminins dans la pièce et de leurs personnages très stéréotypés. Et donc aujourd'hui on va aborder les différentes thématiques, donc notamment les congés paternité, en parlant des différents points de vue de l'époque. Et voilà.
À l'époque, beaucoup étaient contre les congés paternité et le droit à l'IVG, comme le montrent très bien les personnages conservateurs du grand-père Marcel et la grand-mère Germaine. Pour les personnes conservatrices de l'époque, le droit à ce congé devait rester dédié aux femmes. Donner des congés au père n'était pas essentiel, même si le rôle du père était crucial à l'arrivée d'un nouveau-né. Il soutenait la mère en s'occupant des aînés s'il y en avait, prenait en charge les tâches domestiques pour alléger la charge mentale et physique de la mère. Mais pour ces personnes conservatrices, aller jusqu'à donner des congés paternité allait bouleverser l'équilibre familial. Cet équilibre qui se basait sur la complémentarité père-mère, le rôle du père qui était celui de protéger et d'assurer la sécurité familiale. Quant au rôle de la mère, elle devait assurer l'éducation des enfants et la gestion du foyer. Donc, pour les conservateurs, donner des congés au père allait déséquilibrer la complémentarité traditionnelle père-mère.
Donc, on a pu voir dans la pièce que Marie-France se plaignait que son mari ne s'occupe pas de leur fils,
C'est représentatif de la société de l'époque, puisqu'il y avait bien une volonté des femmes de sortir du schéma traditionnel de la femme qui reste à la maison à s'occuper des enfants. Elles voulaient une meilleure répartition de l'éducation de l'enfant et avoir l'occasion d'entretenir une carrière professionnelle. Ça pouvait aussi être une perte pour la société, puisque des femmes qualifiées qui pourraient lui être utiles mettaient leur carrière de côté pour s'occuper de l'enfant.
Au contraire, à l'époque, certains pensaient qu'il n'était pas logique que le père ait droit à un congé alors qu'il n'était pas vu comme compétent et qualifié. Il ne savait pas s'en occuper et n'était pas proche de ses enfants. Ainsi, pour ces personnes, le père ne méritait pas un congé comme la mère qui savait s'en occuper et garder ses enfants correctement.
Donc pour revenir sur le point de vue des personnes plus progressistes, il y a beaucoup de personnes, donc notamment des féministes, qui voulaient sortir du schéma traditionnel selon lequel la mère reste à la maison et qui voulaient repenser le rôle et l'image de la femme dans la société. Il y a également des personnes qui pensaient que le fait de ne pas accorder au père des congés paternité creusait encore plus l'écart homme-femme sur le rôle parental parce que les hommes avaient moins de temps pour s'occuper de leur enfant.
En effet, dans la pièce, Marie-France parle de son deuxième enfant qu'elle attend et se demande si elle va le garder. Elle évoque aussi l'idée d'avorter car elle pense qu'elle ne va pas être capable de s'en occuper. Germaine, sa mère, représente une partie de la société très chrétienne à l'époque qui pensait qu'un enfant était une bénédiction, un cadeau de Dieu et qu'avorter reviendrait à tuer un être vivant innocent. Ainsi, pour ces personnes conservatrices, il n'était pas possible de concevoir l'idée d'avoir recours à l'IVG.
Donc on l'a vu, la pièce parle des congés paternité, mais elle aborde aussi le sujet de l'IVG. Marie-France, au contraire, représente la nouvelle génération fortement touchée par le féminisme qui défendait la liberté de la femme et de son corps. Donc les féministes revendiquaient le droit à l'avortement avec le slogan « quand je veux, quand je peux », qui signifiait que les femmes devaient être libres de pouvoir garder ou non leur futur enfant et que personne ne devait avoir le droit de contester leur choix.
Mais c'est important de noter que face à Marie-France et Germaine, il y avait un entre-deux, une population du centre. Pour cette opinion politique, l'IVG ne devait qu'intervenir dans les cas les plus extrêmes, c'est-à-dire le viol, où la grossesse était imposée contre la volonté de la femme suite à un acte non consenti. Pour cette partie de la population, il fallait arrêter de voir l'IVG comme une solution par défaut, mais seulement comme une solution de dernier recours. Pour cette opinion politique, il était essentiel d'être davantage dans l'anticipation que la réaction, notamment en encourageant une éducation sexuelle efficace ainsi qu'un accès large et facile aux moyens de contraception pour éviter des grossesses non désirées. Ces personnes du centre voulaient valoriser la responsabilité individuelle et privilégier des solutions qui respectent la vie comme l'adoption pour les femmes qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas élever leur enfant.
Donc l'argument avancé par les gens favorables à l'IVG pour contrer cette idée des cas extrêmes est le même aujourd'hui qu'à l'époque. Le viol est un sujet juridique sensible, très dur à déterminer. Il ne peut pas y avoir d'erreur juridique puisque la vie d'un enfant est en jeu. L'argument du viol conjugal commence aussi à rentrer dans les débats aujourd'hui. Il est encore plus dur de savoir s'il y a eu violence sexuelle dans un couple ou pas. Pour les gens favorables à l'IVG, l'enjeu est donc trop important pour seulement l'autoriser pour les cas extrêmes.
Les débats sont toujours d'actualité et en France, le congé paternité continue d'évoluer. Aujourd'hui, un nouveau congé est en train d'être discuté. Ce serait un congé parental mieux rémunéré mais plus court, avec 6 mois répartis en 3 mois pour le père et 3 mois pour la mère, qui aurait pour but de responsabiliser les pères et de renforcer l'égalité entre les parents. Cependant, le recours à l'IVG n'est pas encore légalisé partout. Certes, en France, c'est une liberté constitutionnelle, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, comme aux États-Unis, en Pologne ou encore en Hongrie.
Donc, merci pour vos éclairages sur ces débats. Et maintenant, une pause musicale. Nous allons écouter la chanson « Si j'étais un homme » interprétée par Jan Tell, que Claudine nous analysera.
Mauvais temps.
beau pays du Mans se ferait l'amour sur la plage en savourant chaque seconde ou mon corps engourdi sans flamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme on ne dit pas ces choses. J'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme, mais quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Chacun pour soi, ces histoires d'amour démodées, naïfs qu'au cinéma, on devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme.
Vous venez d'entendre la chanson de Diane Tell, Si j'étais un homme. Je me présente, je suis Claudine, et dans cette chronique, je vous exposerai les impacts de cette chanson en plusieurs points. Son apparition dans la pièce, et dans quel contexte elle a été chantée. Son impact sur l'esprit des Français et des Françaises, à l'époque du mandat de VGE. Et je finirai en vous racontant la réaction des hommes face à cette chanson qui inverse les codes de cette époque. La chanson de Diane Tell a été introduite à la façon d'une expression d'Anémone, la femme du président, lors de la scène où elle ne pouvait ni adhérer au point de vue de Marie-France, ni de Germaine, afin d'éviter tout scandale de leur part. Étant au bout du rouleau, à ce moment, elle choisit de chanter son épuisement dans un élan de désespoir. En chantant cette œuvre, qui questionne les rôles genrés avec une perspective poétique et introspective, Anémone et surtout Diane Tell se met dans la peau du sexe opposé pour exprimer des frustrations liées à la condition féminine. En effet, les paroles sont une critique des rôles genrés, même si le ton de sa voix est d'une douceur infinie, la puissance de celle-ci nous fait entendre les revendications de la chanteuse de manière très claire. Son texte, percutant, s'oppose à une mélodie apaisante, rend son message accessible à un large public. On est ici dans le contexte de l'émergence de la musique engagée. La chanson française devient un vecteur d'expression des problématiques sociales, comme « Résiste » de France Gall ou « Je suis un homme » de Paul Naref. Cette chanson, bien qu'elle connaisse un succès immédiat, est perçue comme audacieuse pour son époque, parce qu'elle invite à réfléchir à la condition féminine en imaginant le point de vue masculin. Dans les années 70, la chanson a un impact important, autant du côté des Français que des Françaises. Pour la société en général, il y eut une prise de conscience progressive des contraintes imposées par le rôle genré. C'est une chanson devenue emblématique des réflexions sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour les artistes de l'époque, c'est devenu une source d'inspiration, notamment pour les femmes qui ont trouvé une voie pour dénoncer les inégalités et aussi pour les mouvements féministes qui se sont servis de ces types d'œuvres pour alimenter leurs revendications. Petite nuance malgré tout, la chanson a été considérée comme trop légère par certains critiques pour être féministe. Chez les hommes, trois réactions. Les peu nombreux qui commencent à comprendre le mouvement féministe et son importance, les plus conservateurs qui voient cette chanson d'un mauvais œil pour leur virilité, et les plus modérés qui étaient tout de même apeurés par ce gros changement de société. À vous, auditeurs, qui écoutez, je vous invite à réécouter cette chanson en réfléchissant à ce qu'elle pourrait signifier pour vous aujourd'hui. Voilà pour cette analyse de Si j'étais un homme. Merci de m'avoir écouté. Je laisse la parole à Romane, Simon, Iris et Inès à la régie.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire part d'un débat entre une critique de théâtre et un jeune lycéen. Ils ont tous les deux vu la pièce de Léo Cohen-Papermann. Et je vais d'abord donner la parole à notre critique de théâtre, Iris.
Merci Romane. Bonjour, je m'appelle Iris. Je suis une journaliste et critique de cinéma. Et depuis peu, j'essaye de me tourner vers le théâtre. Je me suis donc rendue au théâtre pour aller voir cette superbe pièce, Le Dîner chez les Français, de Valéry Giscard d'Estaing. Cette pièce est bien plus qu'une pièce de théâtre, c'est un réel voyage à travers l'histoire qui a réussi à mêler humour et réflexion sur la politique avec brio. La pièce, elle se présente comme une judicieuse allégorie des 7 années du mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Les 7 années de son mandat sont en fait basées sur l'âge de l'enfant. Dès les premières scènes, le spectateur il est plongé dans une ambiance qui est chaleureuse et captivante. Les acteurs, qui sont d'ailleurs parfaitement bien choisis, rendent chaque moment à la fois léger et profond, avec un jeu subtil qui fait à la fois sourire et réfléchir. L'humour qui se dégage de leur échange est à la fois intelligent et souvent drôle. Mais un des plus grands points forts de cette pièce, c'est qu'elle met parfaitement en scène 3 générations et leur rapport à la politique. En plus de tout ça, la pièce elle apporte des sujets différents comme l'interruption volontaire de grossesse, le choc pétrolier, le chômage ou encore le divorce, tout en restant très divertissante. On y trouve une satire très bien dosée qui permet de réfléchir sans jamais se prendre trop au sérieux. À la fin de la pièce, j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer quelques adolescents qui m'ont décrit la pièce en un mot. Vivant, drôle, accessible, bon jeu d'acteur, superbe chanson. Certains m'ont d'ailleurs dit que c'était super car ça leur avait permis d'en apprendre beaucoup sur différents sujets et que le format d'un dîner avec des problématiques basées autour des plats était très original. Donc si vous hésitez à aller voir cette pièce, je vous la conseille. Elle est à la fois intelligente, drôle, bien jouée et captivante.
Merci beaucoup Iris pour cette explication très pertinente. Maintenant nous allons demander l'avis de Simon, un jeune lycéen.
Merci Romane, bonjour, je m'appelle Simon, je suis un lycéen au lycée Albert Camus et aujourd'hui je vais donc vous parler de pourquoi je n'ai pas aimé la pièce de théâtre que nous avons vue avec ma classe. La pièce de théâtre était une comédie qui parlait de la France où Valéry Giscard d'Estaing, notre ancien président de la République. Toutefois, plusieurs critères m'ont déplu de cette pièce, c'est pour cela que je ne l'ai pas aimée. Premier critère, je trouvais que les personnages de la pièce utilisaient des expressions qui n'étaient pas accessibles pour toutes les personnes dans la salle. Deuxième critère, la pièce de théâtre ne comptait qu'un seul décor. La pièce est donc déroulée autour d'une table et a donc duré 2 heures, ce qui a rendu la pièce très ennuyeuse. Pour ma part, je peux donc dire que je ne recommande pas cette pièce de théâtre.
Merci beaucoup Simon pour cet avis. Maintenant, j'ai des questions à vous poser. Donc on va commencer avec toi Simon. Est-ce que la pièce t'a incité à rire ?
Oui, à certains moments j'ai rigolé, mais je trouvais que certains personnages de la pièce m'ont mis mal à l'aise, notamment le rôle du bébé.
Et est-ce que tu as aimé les musiques ?
Les musiques dynamisaient la pièce, mais je ne voyais pas le rapport des chansons qui étaient choisies et le rapport de la pièce de théâtre.
Merci beaucoup. Et Iris, est-ce que vous avez aimé les décors de la pièce ?
J'ai trouvé que les décors étaient super. C'était des décors qui étaient typiques normands et de l'époque. Ils ont donc été très bien choisis, mais ce qui est assez dommage, c'est qu'on n'a pas pu voir l'extérieur, notamment la voiture qui a été beaucoup mentionnée dans la pièce.
Merci à vous deux pour cette discussion très enrichissante. C'est donc la fin de notre émission Sous les projecteurs. Merci à la classe de première 7 et au théâtre de l'avant-scène, ainsi qu'à Camille et Sybille de nous avoir accueillis. Merci à Inès, Mouna, Salamata, Swan, Tom et Com pour la réalisation de cette émission. Et bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.